Ça commence par moi.
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 Ça commence par nous.
Bonjour, bienvenue dans Ça commence par nous sur Rage. Ça commence par nous, qu'est-ce que c'est ? C'est l'émission qui vous aide à changer le monde un petit peu tous les jours. Et oui, ici, on vous propose des actions simples et concrètes, quelles que soient vos compétences, vos moyens et vos disponibilités. Aujourd'hui, avec nos invités, on va voir comment révolutionner notre manière de consommer. C'est vrai que nous vivons dans une société du toujours plus, du toujours plus fort et du toujours plus vite, et de plus en plus de voix s'élèvent pour questionner ce système. Nous nous confrontons chaque jour davantage au fait de vivre sur une planète fragile, aux ressources limitées. Et d'un autre côté, on nous pousse à consommer et à jeter toujours plus. C'est le fameux grand écart à la Jean-Claude Van Damme, quoi. Un chiffre pour illustrer cette course folle. L'année dernière, 1,5 milliard de téléphones ont été vendus dans le monde et les ventes de smartphones augmentent sans discontinuer au fil des ans. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il est possible d'acheter des produits plus durables que d'autres ? Est-ce que durabilité, ça va forcément de pair avec hausse des tarifs ? Existe-t-il des moyens de faire pression sur les grandes marques pour qu'elles s'engagent en faveur de l'environnement ? Voici quelques-unes des questions auxquelles nous allons répondre avec nos invités. Et pour nous aider et voir plus clair, nous recevrons donc Alma Dufour des Amis de la Terre. Il y aura aussi Camille Fabaché qui nous présentera l'association Alto l'obsolescence programmée. Elie Assema nous fera découvrir Common et enfin nous accueillerons Vianney Vaud de la plateforme en ligne Back Market. Sur le plateau avec moi, il y a bien sûr Hélène Dédény, la spécialiste du zéro déchet, et Anne-Sophie de One Art qui nous partagera tout à l'heure son bon plan. Allez, c'est parti pour cette nouvelle émission de Ça commence par nous.
Ça commence par moi.
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 Ça commence par nous.
Aujourd'hui, on vous parle de la durée de vie des objets et nous accueillons tout de suite Alma et Camille, deux spécialistes en la matière qui vont nous aider à poser les bases du sujet. Bonjour les filles.
Bonjour.
Bonjour.
Alma, on commence avec toi. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous présenter rapidement les Amis de la Terre ?
Oui, alors les Amis de la Terre, c'est un réseau écologiste international donc, qui se décline en plusieurs fédérations nationales qui elles-mêmes sont composées de groupes locaux, dont une trentaine en France. Voilà, on lutte pour la justice environnementale, donc c'est-à-dire que pour nous, c'est une conception intégrée de l'environnement, de l'écologie et des droits sociaux. Et donc, on lutte pour une répartition plus juste des ressources à travers le monde. Voilà.
Les Amis de la Terre qui ont d'ailleurs récemment lancé une campagne « Produits pour la vie ». Pourquoi ?
Alors en fait, oui, cette campagne date de 2009. On s'est rendu compte en 2009, on a commencé à aborder le sujet de l'obsolescence programmée, de la réduction de la durée d'usage des produits, que ce soit par la faute des constructeurs ou par des incitations plus générales par le marketing au renouvellement rapide des produits qui nous apparaissaient en totale déconnexion avec une courbe qui va à l'inverse de raréfaction des métaux notamment et de l'ensemble des ressources non renouvelables. Et donc on a lancé cette campagne en 2009, on a porté le sujet de l'obsolescence programmée auprès des députés et en fait on a contribué à l'adoption de la loi de transition énergétique qui a instauré le délit d'obsolescence programmée. On a aussi contribué à la loi de consommation amont de 2014 qui a imposé l'obligation d'affichage de la durée de disponibilité des pièces détachées qui n'est toujours pas vraiment affichée aujourd'hui. Donc cette campagne, on la continue à la fois par le plaidoyer envers les acteurs publics pour la réglementation, pour qu'il y ait des réglementations plus fortes et aussi le plaidoyer vis-à-vis des entreprises et la sensibilisation des consommateurs pour tous les jours les aider à faire des choix plus durables.
Tu as dit plein de mots compliqués, on va y revenir tout au long de l'émission. Ne partez pas, ne vous inquiétez pas, on va vous chouchouter, on va vous bichonner, on va vous expliquer un peu comment y voir plus clair dans cette thématique de la durabilité des produits. Tout de suite, on parle aussi avec Camille. Tout à l'heure, Alma nous parlait d'obsolescence programmée et justement, ça tombe bien. Camille, toi, tu représentes l'association HALT à l'obsolescence programmée.
Donc exactement, HALT à l'obsolescence programmée, c'est une association qui est née en 2015. Donc suite à la loi qui pénalise l'obsolescence programmée. Et donc nous, on agit à différents niveaux. On mène beaucoup d'actions pour sensibiliser les consommateurs, parce qu'on pense que c'est vraiment quand les consommateurs demanderont et feront des choix de consommation différents que les choses pourront vraiment changer, et que chacun là a du pouvoir, un pouvoir qui est vraiment important en consommant. On essaie aussi de fédérer les consommateurs pour justement avoir plus de voix, plus de pouvoir et pouvoir porter comment formuler ça ? Pouvoir porter toutes nos convictions donc, auprès des politiques, auprès des fabricants. Et donc, pour ça, voilà, on a différentes actions. On a notamment un club des entrepreneurs, justement, pour pousser les entrepreneurs et les accompagner dans un cercle plus vertueux. On a également publié un livre l'année dernière sur le sujet, donc, qui s'appelle « Du jetable au durable ». Et donc, voilà, on a des actions diverses et variées. Je pense que c'est pas la peine que je m'étende plus là-dessus.
Non, c'est très bien, c'est très bien. Très concrètement, en deux mots, l'obsolescence, qu'est-ce que c'est ?
L'obsolescence, c'est le fait de réduire la durée de vie des produits. Un produit qui est conçu de manière durable, c'est un produit qu'on peut réparer, c'est un produit qui va être robuste, dont toutes les pièces vont être aussi robustes les unes que les autres, dont le consommateur aussi saura comment prendre soin. Et c'est un produit qu'on considère à soi pour toujours, un produit qu'on a envie de réparer et pas du tout un produit qu'on a envie de changer dès que la mode change.
Et d'ailleurs, du coup, tu viens d'introduire un peu plusieurs concepts parce que l'obsolescence programmée, en fait, elle intervient de différentes manières. Est-ce que tu peux nous le détailler un peu plus rapidement, s'il te plaît ?
Donc, l'obsolescence peut prendre différentes formes. Il y a l'obsolescence technique, quand justement les produits ne sont pas assez robustes, pas assez réparables, qu'il y a des pièces qui sont fragiles. Il y a l'obsolescence logicielle. En fait, c'est une incompatibilité entre différents produits. Et il y a l'obsolescence esthétique. C'est l'effet de mode qui fait que les gens vont vouloir changer...
Psychologique, en fait.
Exactement. Ouais. Obsolescence psychologique qui fait que les gens veulent changer de téléphone parce qu'il y en a un nouveau qui est sorti et qui serait soi-disant mieux.
Et donc moi, je profite de vous avoir toutes les deux ici sur le plateau. Pour les personnes qui nous écoutent, effectivement, on se retrouve à être des consommateurs souvent isolés. On parlait tout à l'heure de ces produits qui nous lâchent. Moi, le premier produit qui me vient en tête, c'est le téléphone portable, le smartphone. Quels sont les premiers pas, quels sont les premiers conseils qu'on peut donner aux gens qui nous écoutent, qui en ont marre d'avoir chaque année un téléphone qui lâche juste après la fin de la garantie ? Alma.
Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, en réalité, la plupart du temps, il y a des biens qui restent réparables, même si on pense qu'ils ne le sont pas. Donc, déjà, il faut dire aux gens qu'il faut mettre les moyens dans la réparation. Souvent, c'est le coût de la réparation. Ils vont le juger disproportionné par rapport au rachat d'un bien neuf. Et en fait, finalement, voilà, il faut que les gens prennent conscience aussi que faire réparer son bien, c'est bon pour la planète. Et donc, du coup, ça vaut aussi pour les téléphones. Par exemple, il y a des téléphones qui sont encore réparables. Après, effectivement, on assiste de plus en plus à des marques qui développent des stratégies qui obstruent la réparation. Alors, c'est pas forcément, ils diront que c'est pas de l'obsolescence programmée technique parce qu'ils prévoient pas la fin de la vie de l'appareil. Sauf qu'en fait, ils soudent des pièces entre elles ou ils rendent les composants inaccessibles, ce qui fait qu'en fait, la réparation coûte le prix d'un bien neuf, voire plus cher. Et donc, à ce moment-là, nous, on a développé, et d'autres associations développent des guides, en fait, des conseils d'achat pour aider les consommateurs à repérer quels sont les biens qui font l'objet de ce genre de stratégie et quels sont les biens qui sont plus durables. Nous, on vient de sortir un guide qui s'appelle « Stop au coût de la peine », donc sur la réparation, et dans lequel, dans un chapitre, on détaille tous les guides existants, et notamment le guide iFixit, en fait, qui développe des avis de la réparabilité de chaque produit pour les ordinateurs, les tablettes et les smartphones. Voilà, on attend qu'il y ait des guides aussi pointus qui sortent sur l'électroménager, notamment. Mais en gros, il y a de plus en plus d'informations disponibles sur Internet et on invite les consommateurs à se renseigner avant de se jeter sur le premier produit venu.
Donc, de manière très concrète, pas de panique, si la vitre de l'écran de votre smartphone est cassé, ça coûte quelques dizaines d'euros de la réparer. Et à la fois, ce que tu es en train de dire aussi, c'est qu'à l'achat, on peut directement prendre des bonnes décisions. Quelles sont les premières questions qu'on peut se poser avant d'acheter un produit ?
Déjà, nous, forcément, on a une démarche vraiment globale et on se dit, est-ce qu'on a besoin d'un nouveau produit ? C'est toujours la première question qu'on doit se poser. Si on en a vraiment besoin, est-ce qu'on peut l'acheter d'occasion ? Est-ce qu'on peut ne pas consommer neuf ? C'est déjà pour nous la première chose à faire. Donc sur certains produits qu'on n'utilise pas souvent, il y a même de la location qui est possible, de type perceuse, etc. Sur un téléphone, bien sûr, c'était censé pas être possible, mais finalement, Common a développé aussi une offre de location de téléphone.
On les aura avec nous tout à l'heure.
Donc la location, l'achat d'occasion sur des plateformes comme Back Market ou les Ateliers du Bocage, qui sont une entreprise sociale et solidaire. Après, si vraiment on trouve pas notre bonheur après avoir écrémé ces étapes, voilà, on a des guides qui nous permettent de repérer les produits qui sont les plus réparables. Et souvent, la bonne surprise, c'est que c'est pas les plus chers du tout. Par exemple, typiquement, le prix d'un Fairphone, ça coûte moins cher qu'un iPhone X ou un Samsung Galaxy. Et pourtant, il est beaucoup plus réparable que ces deux produits.
Et toi, du coup, Camille, tu nous disais que même avant d'acheter ou une fois que son appareil est cassé, on peut peser. Hein, on n'est pas qu'un individu, qu'un citoyen, qu'un consommateur seul et isolé. Est-ce que tu as un exemple concret d'une campagne que vous avez menée récemment ?
Voilà, donc nous, récemment, on s'est occupé du cas de l'iPhone. L'idée, c'est vraiment de montrer que les consommateurs sont conscients de ce problème-là et qu'à l'avenir, il est plus possible pour une grande firme de faire des produits qui soient irréparables, que les gens sont au courant et que les gens peuvent améliorer et faire durer leurs produits beaucoup plus longtemps en changeant la batterie, par exemple. Donc, sur un produit comme le Fairphone, changer la batterie, ça prend une demi-seconde. C'est comme un Nokia 3310, il suffit d'ouvrir, de changer, on reclipse et puis c'est réglé. Sachant qu'une batterie, ça coûte en fait très peu cher.
Pour tous les vingtenaires et ceux d'avant qui nous écoutent, un Nokia 3310, c'était un jeu où il y avait un téléphone où il y avait le jeu Snake. Le téléphone tombait, il s'explosait en mille morceaux et on le remontait comme un Lego. C'était hyper pratique. Concrètement, là, il y a un problème avec un téléphone, il y a quelque chose qui marche pas. Comment font les citoyens à travers vous pour mobiliser, pour bouger les entreprises et le gouvernement? Qu'est-ce que tu conseilles?
Alors, en tant que consommateur, il y a différentes choses à faire. Donc déjà, d'un point de vue très global, en remplissant en ligne un formulaire qu'on a mis, on a eu 10 000 retours à peu près pour le moment, je n'ai pas regardé cette semaine, ça nous permet d'avoir beaucoup de voix et donc on a déjà transmis une partie à la DGCCRF. Donc la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Et donc c'est eux qui vont se pencher sur cette question-là. Donc j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à remplir ce formulaire en ligne, parce que plus on est nombreux, plus on est fédérés et soudés, plus on aura de poids pour faire porter ce message. Donc sur notre site haltobsolescence.org. Et ensuite, dans un autre temps, je pense que quel que soit le téléphone qu'on a, si on a un problème et si on veut le faire durer plus longtemps, il y a plein de solutions avant de le changer. Donc ça peut être des solutions logicielles. Sinon, on ne sait pas faire, on peut demander. Il y a plein de gens qui s'y connaissent, de plus en plus de gens, qui permettent d'alléger le système sous lequel tourne le téléphone, qui permettent de faire un peu de ménage simplement sur ton téléphone, de la même manière qu'on fait du ménage chez nous quand c'est un peu encombré. Et si c'est un composant technique qui casse, donc on peut imaginer l'écran qui casse ou autre, en fait c'est pas si cher que ça de réparer chez un réparateur.
Ouais,
et ça se fait.
On réparera ça, on en parlera de la réparation dans la prochaine émission d'ailleurs. Merci Camille, merci Alma, c'était une super entrée en matière, merci pour votre intervention. Pour ceux qui veulent quand même en savoir plus, moi je vous invite à vous rendre sur le site web produit.org pour découvrir la fameuse campagne des Amis de la Terre et aussi sur le site haltobsolescence.org pour en savoir plus sur la fameuse association Halte à l'obsolescence programmée. Nous, on vous donnera bien évidemment toutes les infos sur le groupe Facebook de Ça commence par nous. Et tout de suite, on se fait une petite pause musicale.
Tout ce que je te dis là, tout ça c'est sérieux. Tu sais tout ce que je te dis là, tout ça c'est sérieux. N'écoute pas les gens, non, je suis quelqu'un de sérieux. N'écoute pas les gens, non, je suis quelqu'un de sérieux. N'écoute pas ces gens, ils sont menteurs et envieux. N'écoute pas ces gens, ils sont menteurs et envieux. C'est pour la vie. C'est pour la vie. We'll be right back.
Haïti. Crois-moi quand je dis que je suis vraiment fait pour toi. Crois-moi quand je dis que je suis vraiment fait pour toi. N'écoute pas les gens qui ne voient pas les choses comme ça. N'écoute pas les gens qui ne voient pas les choses comme ça. Ce sont des médisants, mais ils ne nous sépareront pas. Ce sont des médisants, il n'y aura personne entre toi et moi. Salut, c'est pour la vie. Salut, c'est pour la vie.
Ça commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par nous.
De retour dans l'émission Ça commence par nous. Ici, on change le monde tous les jours un petit peu plus. C'est simple, positif et concret. C'est tous les samedis de 13h à 14h sur Rage. Aujourd'hui, on vous dit tout pour acheter des produits durables. Et nous sommes tout de suite avec Elie Assema.
Ça commence par nous.
Bonjour Elie, tu travailles pour Common. Nous sommes très heureux de te recevoir dans cette émission où nous parlons de la durabilité des produits. Comment vas-tu ?
Bonjour, donc ça va super. On est en plein justement dans la livraison de ce genre de produits ces temps-ci. Pour le coup, chez nous, on n'achète rien, il n'y a que de la location. Common, c'est une coopérative de location d'électronique responsable.
Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, coopérative d'électronique responsable ?
Alors, il y a plusieurs mots là-dedans. Je vais commencer par l'électronique responsable pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Là, l'idée, c'est du constat tout simplement que l'électronique aujourd'hui, ça pose plein de problèmes. Donc, depuis les mines, en passant par les usines, jusqu'à l'absence de recyclage à la fin. Donc, il y a vraiment beaucoup de problèmes. Et l'électronique responsable, c'est justement une électronique qui essaye de minimiser ses dégâts à tous les niveaux. Et alors, pourquoi on parle de coopérative de location ? Donc, l'idée pour nous, c'est de dire qu'une partie de ces problèmes-là, en tout cas, ça vient du modèle économique qui est derrière le monde de l'électronique aujourd'hui. C'est-à-dire que donc, c'est tout simple, hein, c'est la vente en fait, hein, c'est le modèle économique dominant partout. Mais pourquoi dans l'électronique on voit l'impact fort ? C'est tout simplement que hein, quand on produit par exemple des smartphones et on veut... On atteint la saturation du marché, c'est-à-dire qu'on atteint le point où on n'a plus de croissance d'entreprise. Donc là, le seul moyen de continuer à vendre, dans ce cas-là, pour une entreprise standard, c'est que les gens reviennent en acheter. Et donc là, on a tous ces problèmes d'obsolescence programmée, c'est-à-dire qu'en fait, l'entreprise, elle n'a aucun moyen, elle n'a en fait aucun intérêt à dire, OK, moi, économiquement, je voudrais allonger la durée de vie des produits. C'est vraiment complètement l'inverse, en fait.
Ouais, du coup, on est d'accord, hein, on a des produits qui pèsent hein, sur l'environnement. Si je dis pas de bêtises, un iPhone produit, son coût complet, c'est 50 kg de CO2. Et puis, on a de l'autre côté des fabricants qui veulent en vendre toujours plus des téléphones. Hein. 1,5 milliard de téléphones se sont écoulés l'année dernière. Et donc, du coup, on a à la fois le problème des ressources qui s'amenuisent et à la fois le problème d'un autre côté des téléphones qui doivent être toujours plus vendus. Vous, du coup, vous avez dit, on arrête de faire ça, on met nos téléphones en location, si je dis pas de bêtises.
Donc c'est exactement ça. Et en fait, l'idée, c'est que là, on renverse complètement la vapeur. Donc une entreprise qui fait de la location, ben forcément, il a tout intérêt à ce que l'appareil dure le plus longtemps possible. Et il y a autre chose qui est un peu plus fin, dont on parle rarement, c'est que sur la vente, il y a un problème de traçabilité, alors que sur la location, on ne l'a pas. C'est-à-dire que si jamais on fait de la vente, on va savoir à qui on l'a vendu, mais en général, on ne sait pas à qui cette personne, cette entreprise, elle a revendu encore, etc. Et donc, on perd la chaîne. Mmh. Et la conclusion directe, c'est que les déchets électroniques sortent des circuits légaux, elles font des grandes décharges illégales en Afrique ou ailleurs, et très polluantes, hein, avec plein de problèmes. Alors que sur la location, ben, l'entreprise, elle a besoin de savoir où sont ses appareils, ça lui appartient. Et donc, nous, par exemple, on va même encore plus loin que ça, on fait de la traçabilité module par module dans le Fairphone. C'est-à-dire que dans le produit phare, on a des blocs de composants. Et non seulement on va faire la traçabilité par appareil, mais en plus, on est capable de dire, OK, tel micro ou telle batterie, c'est chez tel client, et ça permet après de dire s'il y en a, là il y en a un, c'est la batterie, là c'est le micro qui ne va pas, avec ça on peut faire un nouveau Fairphone qui marche, et donc on limite la quantité de déchets aussi.
Donc le Fairphone, c'est le fameux téléphone qui se répare en quelques secondes avec des modules qui sont démontables, hein, on est d'accord ?
C'est exactement ça. Donc c'est le seul sur le marché qui est conçu pour être réparé très facilement. Donc c'est vraiment incroyable quand on l'a dans les mains, parce qu'on a l'habitude de se dire, ben voilà, changer une batterie ou un écran, c'est pas toujours facile quand la batterie est collée pour certains téléphones ou quoi. Le Fairphone, ben, en quelques secondes, on a changé l'écran. Et avec juste un petit tournevis cruciforme que tout le monde peut avoir, on peut démonter le micro, la caméra, etc. Donc ils sont vraiment forts à ce niveau-là. Et en plus de ça, il faut quand même le dire, c'est qu'ils font de leur mieux pour justement être responsables à tous les niveaux. Donc, ils ont un grand travail sur le recyclage, un grand travail sur l'approvisionnement en minerais. Donc il y a vraiment plein de super travail de fait. Alors évidemment, c'est des premiers pas, c'est-à-dire qu'eux, ils sont aussi très honnêtes là-dessus. On part de très loin dans le monde de l'électronique en général. Donc le but, c'est d'avancer progressivement et dans la bonne direction.
Et ce qui est génial du coup, hein, avec la location et donc du coup l'usage d'un téléphone plutôt que sa propriété, c'est qu'en fait, dans l'intérêt même du fabricant et du vendeur, c'est d'avoir un téléphone qui dure le plus longtemps possible. Et là, en l'occurrence, si je ne dis pas de bêtises, le Fairphone même, on peut se retrouver au bout d'un an, au bout de deux ans, à avoir des nouveaux modules mis à jour pour que notre téléphone ait un nouvel appareil photo plus performant, de manière à ce qu'on n'ait pas à tout changer.
C'est exactement ça. Là, bah, par exemple, il y a quelques mois, il y a eu un nouveau module de caméra. Et donc, il y a une partie des clients Fairphone qui ont dit, ben voilà, moi, je veux changer ma caméra. Et au lieu de jeter tout le téléphone, bah, ils ont juste renvoyé la caméra à Fairphone pour que ça soit recyclé. Et ils ont obtenu une super nouvelle caméra. Donc, effectivement, ça marche comme ça.
Ouais. Génial, Eli. Là, je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui sont intéressées par l'idée, effectivement, d'avoir en location un Fairphone. Comment ça marche concrètement ?
Alors la location, là en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de l'usage. C'est-à-dire que le but, c'est plus de posséder l'appareil, c'est d'avoir l'usage le plus agréable. Et ça sous-entend qu'on ne fournit pas seulement la location de l'appareil, mais plein de services qui vont favoriser ça. Donc par exemple, un truc évident, c'est que toutes nos machines, donc les ordinateurs et le Fairphone, il y a une protection contre les pannes, et ça sans limite de temps. C'est-à-dire que même si c'est très loin, plusieurs années après la fin de la garantie constructeur, une panne, ben, c'est pris en charge. Ça, c'est un des points forts de la location avec service.
Et ça coûte combien ?
Alors, ça dépend des appareils, bien sûr. Donc, pour le Fairphone, c'est entre 20 et 30 euros par mois selon le type de forfait, selon le type de service en fait, que vous voulez justement avec. Et pour les ordinateurs, c'est très, très variable puisque forcément, les ordinateurs, on a plein de gammes différentes. Ça peut aller de 25 euros par mois, je crois, jusqu'à 90 euros par mois, je crois, pour les très hautes gammes.
Ouais, mais donc du coup, effectivement, quand on le met en corrélation avec le prix d'achat, les réparations, le changement de la batterie, les problèmes de mise à jour, etc., etc., finalement, c'est du gagnant-gagnant. Hein. Merci, Eli, moi, je te remercie pour cette présentation. Pour en savoir plus, il y a du coup le site common.fr, ça s'écrit common.fr, et c'est la coopérative de l'électronique responsable. On en parlera bien évidemment sur le groupe de Facebook de Ça commence par nous. Et tout de suite, on se refait une petite pause musicale. Juste après, ne bougez pas, on retrouvera Hélène Dédény pour sa chronique Zéro Déchet. Allez, à tout de suite.
Je veux tes yeux, que tes beaux yeux seulement en photo. Je veux les deux, je veux les deux sans sentir ta peau. Connectée en ligne, mais pas à moi. J'attends ton signe, je crois qu'il y en a pas. J'ai vu que t'as vu, tu réponds pas. Alors j'attends, toujours j'attends, qu'enfin il sonne, ce son l'attend. Peut-être je me mens, peut-être j'en tremble. Faudrait pas que tu penses que je veux tes yeux, que tes beaux yeux. Un jour peut-être, on se verra, mais pas tout de suite, je préfère pas. Je préfère l'illusion de t'avoir, j'ai espoir, mais t'invente pas trop d'histoires. Ok, je sais déjà que si tu m'oublies, ça m'apprendra que je veux tes yeux. Je veux tes yeux seulement en photo. Je veux tes yeux. Je veux tes yeux. Je veux tes yeux.
Ça commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par nous.
Vous êtes bien dans l'émission Ça commence par nous et c'est le moment zéro déchet que vous attendez tous. Je laisse le micro à Hélène qui a fondé Edeni et qui est la spécialiste du zéro waste positif. Salut Hélène.
Salut Julien. Alors oui, acheter des produits durables, c'est d'abord acheter des produits dont on a réellement besoin. Parce que sinon, ils vont vite terminer dans la boîte des 6 mois. Vous savez, cette fameuse boîte dont je vous ai déjà parlé sur cette émission, dans laquelle vous pouvez mettre les produits dont vous n'êtes pas tout à fait sûr d'avoir une utilité. Donc, quand vous faites le tri, vous pouvez mettre quelques produits dans une boîte, vous la fermez, vous la mettez de côté. Et si 6 mois après, vous n'avez pas eu besoin de la rouvrir, c'est que finalement, ces produits n'étaient pas vraiment utiles. Donc à ce moment-là, 2 solutions. Soit vous donnez directement ce qu'il y a dans la boîte à des associations, soit vous pouvez vendre les produits si vraiment ils ont beaucoup de valeur et que vous en avez besoin. Mais alors, quand on a vraiment besoin d'acheter quelque chose, comment peut-on faire pour avoir quelques principes zéro waste en tête? Alors première fois, on ne va pas tourner cette fois la langue dans sa bouche, mais on va se poser cette fois la question de l'utilité dans sa tête avant d'acheter et de savoir si en plus le produit va être sain, écologique, éthique. Et donc au cœur des questions, celui de sa durabilité sur Terre. Il faut savoir, je vous rappelle, que 99% des ressources qui sont extraites de la Terre aujourd'hui deviennent des déchets en moins de 42 jours. C'est énorme. Donc on a vraiment besoin de se poser la question de la solidité des matériaux. Donc on peut prendre par exemple du bois, de l'inox, du verre, du cuir d'ananas. Et oui, ça existe et j'espère qu'on invitera d'ailleurs un jour dans cette émission ceux qui représentent l'industrie Pignatex en France.
Moi, j'en connaissais aux Philippines, donc je ne sais pas si on en a en France, mais effectivement, pour les chaussures, pour les sacs, ça marche hyper bien.
Exactement. Et on en a en France maintenant. Il y a une première boîte qui vient de se fonder
sur des sacs à main. J'ai même entendu du cuir de raisin.
Ah, du cuir de raisin.
Ouais,
et même de champignons aussi.
On va se faire une émission cuir.
On va se faire une émission cuir, ça serait intéressant. Et une fois qu'on a pu voir que le matériau utilisé était suffisamment durable, on va vérifier aussi si c'est un produit en tant que tel qui n'est pas obsolète, qui n'a pas d'obsolescence programmée. Alors, on en a déjà parlé en début de cette émission et on peut revoir les 3 principales formes d'obsolescence avec quelques exemples.
Du coup, tout à l'heure, Camille nous disait il y a l'obsolescence classique, l'obsolescence technique.
Exactement, l'obsolescence technique, dite aussi fonctionnelle ou structurelle, c'est lorsque votre bien ne fonctionne plus en raison de la durée limitée de l'un de ses composants. On peut parler aussi d'obsolescence indirecte lorsque les pièces de rechange ou de remplacement sont rendues inaccessibles ou retirées du marché. Par exemple, le verre de votre cafetière. Ça, c'est on
hyper
est d'accord.
Facile à casser, on ne trouve jamais la cafetière derrière. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tout racheter.
Exactement.
Classique. On a aussi l'obsolescence esthétique.
Exactement, qui est dite aussi psychologique ou culturelle. Alors celle-là, elle est très intéressante et on n'y pense pas assez souvent, mais posez-vous vraiment la question s'il n'y a pas des produits que vous rachetez en vous disant « Ah, j'en ai vraiment besoin !» Mais non, en fait, c'est uniquement de l'obsolescence fonctionnelle, justement psychologique ou culturelle, dite de démodage. C'est lorsque le professionnel commercialise en peu de temps de nouveaux produits plus performants, et qui va présenter comme tel dans ses campagnes promotionnelles. Donc, par exemple, une entreprise dispose déjà de nouvelles avancées technologiques qu'elle va réserver à son prochain produit quelques mois plus tard, juste pour pouvoir avoir différentes versions, quoi. La V1, la V2, la V3, alors que finalement, la V3 était déjà disponible en même temps que la V1.
Et en plus, au moment où il le présente, c'est l'avancée technologique, c'est la révolution. Et en fait, finalement, on peut juste bouger sa tête. Et en temps réel, il y a un animal qui s'anime sur un écran et on vend un téléphone 1000 euros. Et voilà.
C'est ça. Alors vraiment, faites attention de vous poser la question si vous n'êtes pas victime de cette obsolescence esthétique de toujours vouloir. Vous savez, au niveau psychologique, les marketeurs connaissent très bien ce genre de personnes qu'on appelle les early adopters, qui vont toujours se précipiter sur une nouvelle version, quand bien même elle n'aurait pas franchement de choses de révolutionnaires.
Et la dernière, c'est l'obsolescence logicielle, hein, facile à comprendre.
Exactement, ça, il s'agit du renouvellement des logiciels dans les smartphones ou les ordinateurs, par exemple, qui recouvrent plusieurs techniques. Il y a l'obsolescence, par exemple, marketing, qui va viser à rendre indispensable donc la nouvelle version du logiciel et totalement has-been l'ancienne, en mettant de nouveaux jeux qui seront disponibles uniquement sur le nouveau logiciel, ou la limitation de la durée de support technique par rapport à la durée totale du produit, ou encore une fois, l'incompatibilité de format entre différentes versions.
Donc on a un ordinateur et tout d'un coup, on doit absolument passer à la nouvelle version du système d'exploitation parce que sinon les virus ne marchent plus. On a une mise à jour de notre téléphone et tout d'un coup, il est hyper lent alors qu'on a fait la mise à jour. Bref, hein, toutes ces petites pépites du quotidien que je suis sûr nous avons tous vécu.
Les gamers aussi. Ah, on connaît tous ces fameux jeux vidéo qu'on peut plus mettre sur notre ancienne console alors que la console fonctionne encore très bien.
Et pour continuer sur notre lancée, nous, on accueille Vianney Vaught, qui est fondateur, cofondateur de Back Market. Salut Vianney.
Bonjour.
Bonjour Vianney. Alors Back Market, qu'est-ce que c'est ?
Back Market, c'est une start-up qui a 3 ans. Concrètement, c'est une place de marché qui fédère aujourd'hui 250 usines de reconditionnement, usines et ateliers de reconditionnement, et qui permet du coup de connecter ces usines aux consommateurs. Nous, notre métier, ça va être d'aller vérifier les usines avec lesquelles on travaille, les usines qu'on branche à la plateforme, et de s'assurer qu'elles respectent un certain niveau de qualité pour que le consommateur accède à un vaste choix de produits, mais que les produits qu'il achète satisfassent ses attentes.
D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu la différence entre occasion et reconditionné ? Parce que souvent, la limite est un peu fine.
On confond. Il y a une différence majeure, en fait. Dans tous les cas, c'est un produit qui a eu une vie antérieure. Après, dans le cas du reconditionné, avant que ce produit qui a déjà vécu passe dans les mains d'un nouveau propriétaire, il y a un passage dans les mains d'un expert qui est censé vérifier le produit, qui va le réparer si c'est nécessaire et qui s'engage à le garantir 6 mois minimum. C'est la loi qui l'oblige et nous, on s'engage à ce qu'elle soit bien appliquée sur la plateforme avant d'être revendue du coup à un nouveau propriétaire. Donc il y a vraiment cette figure de l'expert qui propose du coup un produit a priori plus fonctionnel et plus robuste et plus durable dans le temps qu'un produit d'occasion que s'il n'est pas réparé.
Et du coup pour un téléphone, j'imagine par exemple en un an on voit à quel point la vie des batteries fond. Est-ce que quand on reconditionne un téléphone, ça veut dire qu'on change forcément la batterie?
Ça dépend, il y a des reconditionneurs qui ne vont pas forcément le faire. Nous sur la plateforme on a un standard sur la batterie qui est de 85% des capacités de charge de la batterie initiale. Donc l'idée c'est pas de systématiser le changement de batterie puisque ça, d'un point de vue écologique, ça aurait pas énormément de sens, mais en tout cas de garantir un niveau de batterie satisfaisant pour le deuxième propriétaire. La réalité c'est que c'est des composants, la batterie mais je pense aussi à la carte mère, qui sont parfois compliqués à tester. Nous sur la plateforme, en feedback de consommateurs, c'est un des problèmes numéro un, c'est la question de la batterie. Donc on s'échine à ce que les reconditionneurs aillent faire des tests plus poussés, qui sophistiquent un peu les logiciels qu'ils utilisent pour tester les batteries, parce que c'est vraiment le cœur sur le smartphone, en tout cas le cœur du problème de la durabilité de ces produits.
Pour les personnes qui ne connaissent pas Back Market mais qui puissent se rendre compte un peu de l'ampleur du mouvement, combien il y a eu de personnes qui ont acheté des téléphones l'année dernière sur votre plateforme?
Sur la plateforme l'année dernière, il y a eu plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont acheté. J'ai plus les chiffres extrêmement précis en tête. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une croissance qui est quand même assez impressionnante. On a un bouche à oreille qui est aussi très positif et que cette croissance, on a réussi en plus à l'exporter dans les pays qu'on a ouverts, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Belgique. Et je pense qu'il y a un vrai appétit des consommateurs. J'ai du mal à distinguer ce qu'est un appétit pour des produits qui sont encore relativement récents et pas chers. Je pense que c'est quand même même la réalité aujourd'hui de l'acte d'achat. Mais je pense qu'il y a aussi un appétit pour une alternative, une manière de consommer des produits high-tech et particulièrement le smartphone, qui soit un peu moins déraisonnable au niveau du prix, mais aussi au niveau de l'éthique et de l'écologie.
Ouais, venons justement à ces questions environnementales. Tu parlais d'écologie tout de suite là. Bah, parce que on est quand même là pour parler de durabilité des produits. Donc du coup, reconditionner un téléphone, ça veut dire qu'on le remet sur le marché. Ouais. Ça veut dire qu'il dure plus longtemps. Mais est-ce que paradoxalement, ça veut pas aussi dire qu'on accélère le mouvement d'échange des smartphones?
Ouais. Moi, je me lève tous les matins un peu avec ce paradoxe en tête. En vrai, nous, ce qu'on observe, par exemple, il y a une donnée très claire à regarder du côté des consommateurs, qui est ce qu'on appelle le taux de repeat. Quand on parle un peu en langage marketing, c'est quand un consommateur qui est venu sur ma plateforme a acheté une fois, quand est-ce qu'il revient pour un deuxième achat. Ce qu'on observe, on a 3 ans d'âge, donc on est relativement jeune, mais c'est que ce réachat, pour un gros tiers de nos consommateurs, il se fait en gros 2 ans après le premier achat. Donc j'ai pas l'impression, moi, de participer à une accélération du rythme d'achat ces appareils, mais peut-être en vrai qu'il y a derrière ça le fait de les rendre plus bon marché, peut-être une accélération de la consommation. Nous, on ne l'observe pas à notre niveau, mais ce serait intéressant de s'en reparler dans 2 ans quand on aura plus de recul là-dessus.
Bon, en tout cas, taux de repeat 24 mois, tu dis, quand on sait qu'en France, le taux de renouvellement d'un smartphone est calculé entre 18 et 22 mois, ouais, on est dedans, quoi.
On est à peu près dans les clous, ouais.
Pas mal.
Mais ouais, c'est vrai qu'il y a quand même une vraie question là-dessus, de savoir est-ce qu'on participe à en fait une boulimie qui est un peu incessante. Je pense que à la différence de nos amis de Hop ou des amis de la Terre, on est un peu plus pragmatique, on est une entreprise et ça fait quand même une grosse différence. En fait, le point de départ de Back Market, c'était un constat très pragmatique qui dit il y a un appétit de consommation, il y a une forme de boulimie objectivement sur ces produits high-tech. Et on va partir de là. Je pense que c'est important qu'il y ait des fédérations, des associations qui s'occupent d'essayer de déminer en amont cet appétit de consommation. Nous, je pense qu'on intervient un peu plus en aval sur comment est-ce qu'on essaye malgré tout de le rendre vertueux. De deux manières. D'abord, en essayant de convaincre les consommateurs d'acheter un produit qui a déjà vécu. Ils peuvent craquer pour l'iPhone 7, mais autant qu'ils craquent en y allant sur Back Market pour l'acheter auprès d'un propriétaire qui a déjà vécu avec cet iPhone 7. Et puis aussi en convainquant les propriétaires au moment où ils rachètent un nouveau portable, de le revendre via la plateforme. On a développé un système de reprise qui permet du coup, quand j'utilise plus un produit, je l'ai mis dans ma boîte des 6 mois, de lui donner une deuxième vie en le revendant via la plateforme.
Et ça évite d'avoir ces dizaines et dizaines de millions de téléphones qui dorment dans des tiroirs en France.
Centaines de millions, je crois, aujourd'hui.
Et alors justement, comment on se passe le renvoi, le processus, si nos auditeurs, là, demain, ont envie de vider leur tiroir de leurs anciens téléphones, comment ils font?
C'est assez simple, vous rendez sur la plateforme, il y a un bouton un peu discret, mais je les engage à le chercher sur le site, c'est en haut à droite. Et concrètement, vous allez cliquer sur, aller dans l'interface de reprise, vous allez en quelques clics déterminer la valeur du smartphone que vous avez dans la main, selon que l'écran soit cassé, s'il est fonctionnel ou non. Et nous, en fait, on va aller chercher dans notre base de 250 marchands, le marchand qui a la meilleure offre de rachat à l'instant T pour le produit en fonction de la description que vous en avez faite. On va vous envoyer un kit de reprise qui va vous permettre de transmettre directement votre téléphone au marchand. Et puis le marchand va vérifier que le produit correspond bien à la description que vous en avez faite et puis vous payez sous 48 heures.
Bah, génial, merci Vianney. Tu as ouvert aussi plein de portes pour notre débrief qui sera dans un instant. Nous, on t'y retrouvera tout à l'heure. Vous pouvez effectivement retrouver toutes ces informations sur la plateforme en ligne du Back Market. Nous, on se fait tout de suite un petit break musical et on revient juste après avec Anne-Sophie qui nous partagera le bon plan de One Art. À tout de suite.
Tire à la carabine, la crosse nichée dans ton épaule. Tu détruisais cible après cible, c'était définitif et beau. Les éclats de plastique fusaient quand tu caressais la gâchette. Parfois tu jouais pour la peluche, parfois pour le radio cassette. Tire à la
bouche font voler en éclats les gens. Ta motivation est moins claire, un genre de pluche imaginaire, un truc dément que toi seul vois chaque fois quelqu'un mord la poussière.
Ça commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par nous.
De retour dans l'émission Ça commence par nous et je laisse tout de suite le micro à Anne-Sophie du média positif One Art. Salut Anne-Sophie.
Salut Julien. Moi je vais vous parler de la textilerie qui est un lieu créatif dédié au textile qui a pour objectif de donner une seconde vie aux vêtements. Vider ses placards, donner à une association, ça on le fait depuis longtemps. Aujourd'hui je vais vous parler d'un endroit où on récupère ce que vous jetez, on transforme. On répare, pardon, ou on transforme une robe en sac autour d'un thé et d'une machine à coudre et on peut même y faire son shopping. La textilerie rassemble sur 1300 m2 un atelier de couture, une boutique café et une recyclerie. C'est tout nouveau, ça a ouvert en janvier et c'est à deux pas de la gare de l'Est à Paris.
Et du coup, tu dis qu'il y a trois espaces et l'un d'entre eux, c'est une boutique café.
Oui, alors côté boutique, vous trouvez des matières premières pour créer, un peu genre mercerie, avec de jolis tissus en coton bio, c'est-à-dire sans pesticides, ni OGM, ni produits chimiques, qui a la traçabilité impeccable, mais aussi des chutes de tissus à prix bradé, et une sélection de vêtements et accessoires de créateurs engagés dans une démarche d'éco-conception, à l'image de la marque La Tête dans les Nuages, qui fait des coussins et poufs à partir de toiles de montgolfière et rembourrées avec du polystyrène recyclé. Pour l'été, sachez que les poufs peuvent être mis sur l'eau et se transformer en matelas pneumatiques. Toujours donc dans le café boutique, il y a le coin café, où vous pouvez vous installer dans de bons fauteuils en buvant un jus de fruits bio ou une boisson chaude et piocher dans la bibliothèque pour consulter des livres ou des patrons de couture.
Et l'autre espace, c'est la recyclerie.
Oui, ou comme dans une recyclerie classique, on peut venir donner ou chiner des vêtements en bon état, à bas prix, à titre indicatif. Les t-shirts sont à 3 euros, les robes à 8 euros et les manteaux entre 15 et 20 euros.
Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'apparemment, on peut même fabriquer ces vêtements au lieu de les acheter, non ?
Oui, vous pouvez prendre des cours de couture ou faire des ateliers do-it-yourself autour de la transformation de vêtements. On peut louer en accès libre des machines à coudre et du matériel de couture professionnel, comme des piqueuses et des surjeteuses. Julien, tu sais ce qu'est une surjeteuse, bien sûr.
Oui, je le sais. J'ai travaillé en Colombie avec des couturières. Je connais parfaitement la différence.
Ah, donc, tu n'es pas fait pour le cours débutant, mais pour le cours plus avancé, pour recevoir les conseils de Clémence, la prof de couture, qui livre tous ses types. Il y a différents cours thématiques qui sont organisés. Ils ont organisé, par exemple, récemment, un cours de kimono. Ils vont organiser prochainement un cours pour apprendre à faire des jupes, tout simplement. Et sinon, il y a des cours généralistes par niveau. Pour s'inscrire, ça se passe sur le site et chaque semaine.
Et tu peux nous en dire un peu plus sur les personnes qui ont créé ce temple de la couture, s'il te plaît?
Oui, alors, il y a une ancienne grande consommatrice de fast fashion, c'est Elsa, diplômée d'HEC, qui a fini par se lasser du rythme effréné de l'industrie de la mode. Elle a alors commencé à customiser ses vêtements pour leur donner une seconde vie et a fini par se mettre à la couture. Convaincue que sa prise de conscience pourrait en inspirer d'autres, elle s'associe à Alice, qui avait elle-même de son côté aussi commencé à questionner le statut du vêtement dans la société en créant Mode Estime, une association qui favorise la réinsertion des personnes en situation d'exclusion via la couture et qui crée des modèles à partir de chutes de production. Elles ont donc ensemble décidé d'ouvrir ce lieu formidable qui commence à déjà faire beaucoup parler de lui parce qu'il est chaleureux, c'est charmant et très utile.
Ça commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par nous.
Et vous êtes toujours dans l'émission Ça commence par nous. Aujourd'hui, on vous aide à consommer plus durablement. On profite, comme à chaque débrief, d'avoir nos invités avec nous encore un peu pour continuer à creuser le sujet de comment faire en sorte que nos produits, ils nous durent pour la vie. Je sais pas, mais en tout cas, le plus longtemps possible. Et moi, la première question, je sais pas qui veut prendre cette balle au bon, c'est est-ce que finalement, c'est en train d'exploser cette tendance de la durabilité des produits ou finalement, ça reste très minoritaire? Camille, je te vois hocher de la tête.
Voilà. Moi, je pense que c'est vraiment un mouvement qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avenir. On voit qu'en quelques années, il y a quelques années, personne ne savait ce qu'était l'obsolescence programmée, personne ne savait ce que c'était, personne ne se posait la question en fait, du taux de renouvellement. Aujourd'hui, on y pense de plus en plus, il y a de plus en plus de gens qui commencent à y faire attention. Et je pense que nous, en tant qu'association, que ce soit les Amis de la Terre ou Hop ou d'autres associations, c'est hyper important qu'on sensibilise les gens et qu'on fasse beaucoup de plaidoyer auprès des hommes politiques pour que les lois changent, auprès des fabricants pour que les modes de production changent. Mais ça me paraît absolument essentiel qu'il y ait des entreprises comme Back Market ou d'autres start-up ou des auto-entrepreneurs qui décident de se mettre à réparer des imprimantes, à débloquer des cartouches, qui se mettent à changer et à réparer tous les objets du quotidien. Parce qu'il n'y a que en développant cette offre que finalement tous les consommateurs vont pouvoir facilement réparer et allonger la durée des produits. À mon avis, c'est vraiment le rôle de chacun, qu'on soit consommateur et ou professionnel.
Depuis le début du lancement, hein, tu disais produits pour la vie, c'est depuis 2009. Est-ce que vous avez vu une explosion un peu de ces sujets? Effectivement, Camille disait, mais attends, ça bouge parce que bon, vous avez fait des gros coups. Hein, on a parlé de Hop dans Le Monde, on a parlé dans de gros journaux. Toi, du coup, Alma, est-ce que tu peux attester un peu, abonder dans ce sens-là?
Oui, alors j'abonde totalement dans ce sens-là pour ce qui concerne la France, pour ce qui concerne les pays développés. C'est évident qu'aujourd'hui, on est sur des marchés saturés, on est sur des populations qui sont de plus en plus éduquées et conscientisées à plein de problèmes. Par contre, j'aimerais attirer l'attention sur le danger, en fait, du développement de ces modèles de consommation, de la fast consommation dans les pays émergents. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans Chine, notamment, en Afrique, enfin, dans plein de pays. En fait, il y a une classe moyenne mondiale qui est encore, elle, basée sur des modèles de consommation que nous, on avait avant et qu'on leur vend et qu'on continue de leur vendre. Donc, il faut se méfier des doubles discours de la multinationale qui va à des pays riches leur offrir un produit durable et à des pays moins riches leur offrir des entrées de gamme et des choses pas réparables. Parce qu'en fait, si ces tendances-là continuent au niveau global, on va droit dans le mur. Et donc voilà, nous, on est quand même vigilants et on trouve que c'est un très bon signal ce qui se passe dans les pays développés, mais on a besoin que les pouvoirs publics prennent les choses en main et accélèrent cette transition.
Et alors justement, sur tous les outils qu'on peut mettre en place pour aller dans le bon sens quelque part, est-ce qu'on n'a pas tout intérêt à regarder des initiatives comme ce qui se met en place dans les pays du Nord où la fiscalité va être beaucoup plus intéressante concernant les produits réparés? Est-ce que c'est des pistes d'amélioration ou de revenir par exemple à des petits réparateurs de quartier comme il existe par exemple en Argentine? On n'imagine pas avoir un ventilateur qui se casse et ne pas aller d'abord le faire réparer avant d'en racheter un autre. Parmi toutes les options qu'on peut avoir, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place en France pour revenir à plus de réparations?
Bah alors en France, tout à fait, je pense qu'il y a un soutien à l'activité des réparateurs par l'économique. Donc soit par une TVA réduite, ce qui jusqu'à maintenant n'était pas possible à cause de la directive TVA que peu de personnes connaissent, mais en fait qui limite grandement ces possibilités, mais en fait qui est en train d'être révisée au niveau européen. Donc ça tombe bien, donc il y a une occasion à saisir et voilà, d'ouvrir une TVA réduite sur toutes les activités de réparation. Il y a aussi, nous, on pense que les entreprises, en fait, via le coût des pièces détachées, elles exercent un monopole sur la réparation et facturent le coût des pièces détachées aux consommateurs et aux réparateurs très, très cher. Et nous, en fait, on voudrait que la France régule ça, d'une manière ou d'une autre, soit par un encadrement des prix, soit par une contribution plus importante financière des entreprises à la réparation. Et voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a le niveau européen qui est là aussi pour encadrer, qui a les moyens d'encadrer tous les produits qui circulent sur le marché unique européen. Et donc là, ce serait des normes de conception, en fait. Donc, comptabilité, plus, enfin, mise à jour des logiciels, pas de batterie soudée, pas de disque dur soudé, comme c'est le cas des nouveaux MacBook d'Apple, qui ont le disque dur soudé maintenant à la carte mère, ce qui, voilà, propulse le prix de la réparation dans des sphères stratosphériques,
quoi. On est d'accord, mais du coup, pour toutes les personnes qui nous écoutent, nous, on est spécialistes du concret. On est spécialiste de l'applicable tout de suite une fois que l'émission sera terminée. Est-ce qu'il y a quelqu'un là ici qui s'est déjà mis à consommer de manière plus durable et qui est assez fier de ça et qui a envie de nous partager son bon plan? Je sais par exemple qu'Hélène, non, pas que je veuille te cibler particulièrement, toi tu louais des vêtements, vous vous souvenez, on avait accueilli Tell Me ici. Est-ce que tu peux en dire deux mots, partager un peu ça?
Exactement. Ce week-end, j'étais à Marseille avec une de mes très bonnes amies qui a accouché et l'un des cadeaux que j'ai pu lui faire, c'était une box Tell Me dans laquelle elle retrouve juste un petit code qu'elle va pouvoir rentrer pour lui donner accès à un abonnement de vêtements de maternité avec lesquels elle pourra allaiter et qu'elle n'aura pas besoin d'acheter juste pour cette occasion-là. En plus, effectivement, il y a beaucoup de vêtements qu'on peut se prêter pour les enfants, pour les petits. Des vêtements de maternité, c'est un peu plus rare à trouver. Du coup, là, effectivement, la location, ça pourrait être quelque chose de pas mal, comme on parlait tout à l'heure avec Back Market, de favoriser l'économie de l'usage plutôt que de la possession. On en a déjà parlé aussi, mais louer votre perceuse, louer votre tuba si vous en avez besoin, ou votre GoPro juste pour quelques semaines de vacances, là, c'est la neige, le ski. Donc, pensez à louer votre matériel plutôt que de l'acheter si vous pouvez, si vous ne l'avez pas déjà.
On parle forcément aussi de toutes ces plateformes de prêt et d'emprunt. Je pense à Smile, je pense à Moutoum. On fera une émission spéciale sur la conso collaborative. Je sais que Vianney aussi voulait nous partager ses bonnes pratiques. Vas-y, Vianney.
Moi, par la force des choses, je me suis mis à acheter beaucoup sur Back Market. Et c'est vrai que ça a été un peu, personnellement, le point de départ aussi de ma prise de conscience écolo. C'est arrivé un peu sur le tard, pour être complètement honnête. Et là, je commence surtout par la fringue en ce moment. J'aime beaucoup ce que fait Loom et Opal. Je suis trop content de porter leur pull recyclé, même si je sais qu'il a peut-être ses limites. Mais voilà, donc je commence surtout par les vêtements en ce moment. Puis on verra après.
Des vêtements, du recyclage, hein, du coup. Est-ce que toi, Camille, tu voulais rajouter quelque chose?
Moi, je voulais reparler du domaine électronique rapidement parce qu'en fait, j'ai un exemple qui remonte à hier soir.
Vas-y, on y retourne.
Voilà, en fait, mon mari a son téléphone qui ne s'allumait plus, qui ne fonctionnait plus. Il a acheté pour 5 euros une batterie sur Internet. Donc c'était un site qui vendait des batteries qui n'étaient pas certifiées constructeurs, mais quand il a démonté la batterie de son téléphone, de toute façon, on ne voyait absolument aucune différence. Il a mis 20-25 minutes à démonter le téléphone, il a mis la batterie, il a rallumé le téléphone et ça remarche. Donc voilà, 5 euros et 25 minutes, sachant que ce n'est pas son métier du tout. Donc voilà, il s'est lancé parce que le téléphone, de toute façon, craignait plus rien et ça a marché, donc voilà.
Donc voilà, et effectivement, l'idée, c'est de ne pas acheter tout de suite. Anne-Sophie, un dernier mot?
J'ai une petite dernière question sur l'obsolescence programmée, parce que la loi de 2015 qui condamne les entreprises, comment elle les condamne et comment ils arrivent à le contrôler, sachant que quand vous allez chez Darty aujourd'hui et que vous achetez un produit, on vous explique que la garantie, on va même pas essayer de réparer le produit, mais le remplacer automatiquement. Donc du coup, c'est pas du tout dans le sens de la loi contre... Comment ils sont punis? Comment Darty, par exemple, est puni de ce genre de pratique?
La question piégeuse à laquelle tu dois répondre en 30 secondes. Vas-y.
Alors en fait, c'est vraiment les fabricants qui vont être punis. C'est pas les revendeurs pour le moment. Donc en fait, les fabricants encourent jusqu'à 300 000 euros d'amende et 2 ans d'emprisonnement.
Mais comment ils sont jugés? Comment ils sont contrôlés?
Sachant que ça peut monter jusqu'à 5% du chiffre d'affaires. Donc pour Apple, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros. Et donc, ils seront punis suite à des plaintes comme notre association Hop a déposé. C'est la DGCCRF, dont je parlais en début d'émission, qui s'occupe de l'enquête, suite à la saisie de l'enquête par le tribunal, par le procureur. Et donc, il y aura procès, et c'est suite à ça qu'ils pourront être punis.
Et voilà, faisons entendre nos voix pour consommer de manière plus durable. L'émission touche à sa fin, malheureusement. Je remercie quand même tous nos invités pour leurs interventions de qualité. Pour rappel, on a eu reçu Alma Dufour des Amis de la Terre. On a eu aussi Camille Fabaché de l'association Hop. On a eu Elie Assema de Common et Vianney Vaught de Back Market. Bien évidemment, je remercie mon équipe de choc avec Anne-Sophie de One Art pour son bon plan, Hélène Dédény pour son focus zéro déchet. Il y avait Raphaël à la technique, vous ne l'avez pas vu, mais il était bien là. Et Fabrice, notre producteur. Tout ça pour Rage.
Ça commence par nous!
Et voilà, nous avons désormais toutes les clés en main pour choisir des objets plus durables et aller vers une consommation raisonnée et respectueuse de l'environnement. Tous ensemble, nous pouvons changer notre mode de consommation pour que nos produits ne terminent pas en déchets au bout de quelques mois, même 42 jours, comme disait Hélène. Tout ça, ça commence par nous. Si vous voulez réécouter ou partager cette émission, vous pourrez bien évidemment retrouver le podcast sur le groupe Facebook Ça commence par nous et sur rage.fr. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et on parlera de comment faire ses courses en vrac. Merci de nous avoir écoutés. Je suis vraiment content d'avoir passé ce moment avec vous et je vous dis à samedi prochain, 13h. Allez, salut!